Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue au balado à la une cette semaine, une présentation de la Terre de chez nous. Il me fait plaisir de vous retrouver, mon nom est Vincent Cauchy et je reçois les journalistes de la Terre de chez nous pour faire un survol des manchettes de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'édition de la Terre de chez nous du 17 avril 2024. Au menu aujourd'hui, on va parler des changements importants qui s'opèrent dans l'industrie acéricole, notamment sur la question de la salubrité dans les cabanes à sucre. Et on va faire ça en compagnie du journaliste Martin Ménard. Je rencontre ensuite Caroline Morneau pour discuter des derniers développements entourant la vague de manifestations qui déferle sur le Québec en lien avec la crise actuelle en agriculture. Et finalement, avec Patricia Blackburn, il va être question de l'augmentation remarquable de la production de poulet au cours des 10 dernières années et des causes qui peuvent expliquer cette hausse. Sur ce, bonne émission. Au Québec, il existe plus de 6000 entreprises acéricoles et qui dit entreprise acéricole dit cabane à sucre. Et notre journaliste Martin Ménard s'est penché sur la question de la salubrité dans les cabanes à sucre et il en a fait un dossier. Salut Martin.
Hey, salut Vinny, comment vas-tu? Comment vont nos lecteurs et nos lectrices?
Je suis convaincu qu'ils vont, ils et elles vont très bien. Qu'en est-il exactement de cette quête-là de salubrité dans les cabanes à sucre au Québec?
Oui, ben c'est ça. Hein, c'est la demande des acheteurs étrangers. Tu sais que le sirop est exporté en grande majorité. Donc, les acheteurs européens, japonais demandent de plus en plus des standards de salubrité, de sécurité alimentaire. Font pression sur les transformateurs québécois. Et ceux-ci, maintenant, commencent à faire pression sur les producteurs. En fait, ce que l'industrie veut, là, c'est que les producteurs acéricoles mettent en place des standards de salubrité. On parle, par exemple, de filets au niveau de la barbe. Et je regarde la tienne, Vinny, toi, c'est pas un, c'est quasiment deux ou même trois filets sur ta barbe.
J'en aurais besoin d'un papé. Outre les éléments personnels, est-ce qu'il y a des éléments sur la cabane qui doivent être modifiés ou...
Oui, je faisais une blague avec le filet. Même, mes parenthèses, le filet, le ministère de l'Agriculture l'exige présentement, mais il n'y a pas beaucoup de producteurs de sirop qui met un sarreau et un filet sur la barbe et les cheveux. Donc, il est question surtout d'un guide, finalement, de production. Un guide de salubrité et de sécurité alimentaire qui couvre plusieurs domaines. Ça soit juste la construction même de la cabane. On ne veut pas avoir d'infiltration, par exemple, que ce ne soit pas étanche comme cabane, que la vermine puisse entrer. Il y a des petites exigences au niveau de la production de sirop. Quand on touche au sirop d'érable, on s'assure qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent être contaminés, par exemple. Nettoyer tout le système de collecte d'eau pour être certain que la sève ne viennent pas ensuite être contaminés. Donc, c'est vraiment toutes des procédures qui sont proposées dans un guide. Puis vraiment, présentement, ça va être sur une forme de proposition au producteur. Il n'y aura pas de punition, en tout cas, un système là, qui va venir contraindre les gens à ce niveau-là.
Mais est-ce qu'on s'attend à ce que, tranquillement, il y ait une transition, une diminution des cabanes à sucre, et je le mets entre gros guillemets, là, folklorique, un peu plus en bois...
Oui, c'est exactement ça qu'on a dit dans l'article. C'était pour en même temps faire un petit clin d'œil, mais ça, c'est qu'on prend finalement la cabane, entre guillemets, qui est folklorique, qui est un peu... les gens peuvent manger des fois, boire un bon verre de gin avec du réduit. Mais ça va être effectivement, si les gens veulent faire de l'exportation ou s'ils veulent envoyer du sirop qui va être mis en vrac puis vendu à des transformateurs par la suite. Et malheureusement, l'aspect traditionnel folklorique va disparaître ou à tout le moins être beaucoup plus normalisé, si on veut. Mais ça n'empêche pas que la cabane traditionnelle va continuer d'exister. Les gens qui veulent faire leur propre sirop pour eux, pour vendre à leurs copains, à la famille, ils n'auront pas le cahier de charge à suivre.
Ça va peut-être créer peut-être deux catégories, si on veut, de cabanes. Et parlant de la cabane avec des normes de salubrité qui sont vraiment au-devant et au-devant de ce qui est attendu, tu en as visité une d'ailleurs récemment là, dans le cadre du dossier. Là.
Oui, un monsieur à Saint-Esprit dans la Naudière, super sympathique. Monsieur qui a connu l'époque hein, des cabanes à sucre avec les chevaux. les évaporateurs au bois, les chaudières. Puis là, maintenant, il s'est reconstruit une cabane. C'est pas si gros, là, c'est 8000 en taille. Mais une cabane, hein, tu pourrais quasiment manger par terre. C'est des murs de grade alimentaire. Il s'est mis aussi un évaporateur électrique. Tout est en inox. C'est quelqu'un qui est un frotteux, là, lui. Là. Non, mais sérieusement, là, on faisait une blague en prenant des photos avec une mop. T'sais, c'est rare qu'on voit ça comme photo au niveau journalistique pour la série culture. Mais lui, c'est vrai. Surtout qu'il y avait un peu de sirop qui tombait par terre. Donnait un peu de... Oui, on nettoie facilement. Puis, c'est le principe d'avoir comme une mini-usine pour produire du sirop avec tout ce qu'on peut avoir comme norme dans le milieu alimentaire.
Puis le monsieur en question... Monsieur Yvon Grégoire, est-ce qu'il faisait ça pour son propre plaisir, si on veut? Est-ce que c'était un objectif qu'il s'était donné lui-même de créer cette cabane-là? Ou?
Plus par fierté aussi. Il se disait, moi, je veux être en évolution. J'ai pas envie qu'on me reproche quoi que ce soit. Puis deuxièmement, il faisait aussi pour lui-même, pour la facilité. Parce qu'il s'est rendu compte qu'à l'époque, sa cabane, exemple, en bois, tu voulais nettoyer ça, c'était difficile. Tout le système de production à l'intérieur, là, je te parle peut-être un petit comparable entre l'évaporateur qu'il avait au bois versus là, électrique, mais ça se fait beaucoup plus maintenant automatisé. Puis la facilité de nettoyer un peu tout, il aimait cette façon de faire le sirop d'érable.
Et les gens qui aimeraient faire comme M. Grégoire, il y a une formation maintenant qui est offerte.
Oui, une formation qui est offerte depuis quelques années, mais qui est maintenant gratuite pour les gens qui sont membres des producteurs et productrices à Séricole du Québec, les PPAQ. C'est une formation qui est offerte par le Centre Acer, une journée. Ça se fait même en ligne. Et là-dedans, on apprend un peu les techniques d'assainissement, sécurité alimentaire. Il y a aussi dans la formation, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi aux producteurs de connaître tout ce qui est les systèmes, les solutions de nettoyage. Ça facilite aussi leur vie. T'sais, c'est pas juste de venir respecter une norme. Puis, ça fait aussi en sorte que si tu fais inspecter par le MAPAC, parce qu'on voyait, le MAPAC nous a dit qu'il y avait à peu près une trentaine de cabanes à sucre qui ont été inspectées. Et par contre, parmi les 30, il n'y en a aucune qui a été mise à l'amende. Mais en resserrant un petit peu les normes tranquillement, ça serait important pour les gens d'avoir une formation. C'est ce qu'on me disait de la part d'un des spécialistes là, au Centre Acer. Les gens, les agriculteurs, avoir une formation, ça va permettre d'augmenter, d'améliorer un peu leur production, mm-hmm. puis de se conformer sans que ça soit nécessairement lourd pour eux.
Pour en apprendre plus sur la question de la salubrité à la cabane à sucre, vous pouvez consulter le dossier de Martin dans la Terre de chez nous du 17 avril. Également sur notre site web sur laterre.ca. Martin, tu nous présentes également une rencontre avec monsieur Grégoire à sa cabane à sucre qui nous explique un peu les différents éléments qui s'y trouvent. Donc, allez voir ça.
Oui, puis si vous avez l'occasion d'aller le visiter lui-même et de goûter à son beurre d'érable, je vous le dis, très bon.
Merci. On en prend bonne note, Martin. Merci beaucoup.
Je pense qu'aujourd'hui, l'expression qu'on a là, de l'écœurant type de l'ensemble des producteurs, ça fait suite là, à une certaine latence qu'on a vécue au cours des dernières années. Donc, c'est quand même une accumulation d'éléments là, qui, petit à petit, se sont additionnés et qui, rendus en 2024, là, nous ont fait exploser. Donc, là, c'est cette explosion-là, je pense, qui s'exprime là, depuis le début de l'année 2024, qui a été exprimée vers la fin.
On entendait ici Christian Overbeck, qui est président des producteurs de grains du Québec et également producteur agricole dans la région de Saint-Hyacinthe. C'était lors d'une manifestation, d'un rassemblement à Saint-Hyacinthe dans le courant de la semaine dernière. Manifestation qui se multiplie et qui s'accélère un peu partout au Québec. J'ai avec moi Caroline Morneau pour en parler. Salut Caroline.
Salut Vincent.
Alors, de quoi a l'air cette amplification-là des manifestations dernièrement?
Oui, bien, déjà parlé, mais ça fait quelques semaines là, justement que les différentes régions du Québec, les agriculteurs des différentes régions se mobilisent tour à tour. La semaine passée, il y a eu plusieurs manifestations dans la grande région de Montréal, trois en Montérégie. Moi, j'ai assisté à une manifestation qui a eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était la semaine d'avant, le 5 avril, mais ce qu'on remarque, en tout cas moi, ce que je remarque, c'est quand je me suis déplacée, c'était la présence de journalistes. Les journalistes déjà couvrent ces manifestations-là, donc une attention médiatique particulière, des politiciens aussi qui s'en mêlent, qui veulent tous prendre position là-dedans. Moi, quand j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait plein de journalistes. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault était là, Gabrielle Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire était là, des représentants des autres partis d'opposition aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vois, c'est une volonté de tout le monde de s'approprier un petit peu ce débat-là, mm-hmm. cet enjeu-là, puis de se positionner.
Il y a une accélération aussi au niveau de l'intérêt des gens pour ce dossier-là. Est-ce qu'il y a aussi des demandes plus concrètes aussi? Parce que les agriculteurs, on les entend, on sait quelles sont les problématiques, mais est-ce qu'il y a une sortie de crise visible?
C'est ça, la grande question, selon moi, c'est est-ce que toute cette mobilisation-là, parce que oui, ça se continue cette semaine, là, il va en avoir d'autres, il y en a 6 de prévus, des manifestations juste dans la prochaine semaine, je pense à Gatineau, Drummondville, en Beauce, en Gaspésie, dans la Nodière, donc ça va se poursuivre. Est-ce qu'il va y avoir des résultats concrets avec toute cette mobilisation-là? C'est la grande question. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose de concret? L'UPA s'est avancé à proposer quelque chose, s'est avancé à proposer ce qu'elle appelle un bouclier financier, donc un programme de 300 millions de dollars sur 3 ans qui cible particulièrement les problèmes vécus par les agriculteurs par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Donc, ils se sont avancés à se dire bien, ça prendra un programme pour régler la situation des taux d'intérêt. Après, il y a d'autres enjeux qui touchent les agriculteurs. Ils manifestent pour toutes sortes de raisons, les agriculteurs, mais ils veulent de l'aide. Quel genre d'aide ils vont obtenir, c'est ça qui va rester à suivre.
Et pour ça, bien, les manifestations et les regroupements de tracteurs vont se poursuivre un peu partout au Québec dans les prochaines semaines. Comme tu le mentionnais, il y a 7 rassemblements de prévus dans les prochaines semaines. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le www.laterre.ca ou encore à lire La Terre de chez nous. Nous y faisons généralement des comptes rendus, des rencontres, que ce soit en texte ou encore en vidéo ou en photo. Alors, je vous invite à suivre les diverses manifestations dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Vincent.
La production de poulet au Québec est en constante progression. Et j'ai avec moi Patricia Blackburn pour en parler. Salut Patricia.
Salut Vincent.
Alors, on apprenait dernièrement que lors de l'année civile 2023, il y a eu plus de 508 millions de kilos de poulet qui ont été produits. C'est une augmentation, j'imagine, par rapport à avant. Mais on parle de quoi comme augmentation? Est-ce que c'est une grande, une forte augmentation?
Ben, ce qui a été évoqué pendant l'Assemblée générale annuelle des éleveurs de volailles le début du mois d'avril, c'est que c'est une croissance de 27 % sur 10 ans. Donc, depuis 10 ans, on sait que ça augmente toujours, là, la production de poulet, mais ce chiffre-là vient un peu nous montrer de...
À quel point c'est appréciable comme augmentation. Et cette augmentation-là s'explique par quoi exactement?
Ben, premièrement, la croissance de la population. Mais aussi, il y a eu une question de prix. C'est que le poulet est plus abordable que d'autres viandes, comme le bœuf, qui a eu une très grosse augmentation du prix depuis la pandémie, surtout. Donc là, avec des prix plus bas, ben, ça a l'avantage
Ça avantage le poulet. Est-ce qu'il y a eu, puis est-ce qu'il y a des changements aussi au niveau des désirs de la population, des consommateurs?
Oui, il semble-t-il qu'il y a eu aussi des changements d'habitude de consommation. Donc, les parties les moins chères se vendent plus, donc comme les cuisses, la viande brune. À l'inverse, ben, les poitrines sont un petit peu moins populaires. Donc, ça s'accumule un peu plus dans les stocks en entrepôt.
Puis ça, est-ce que ça cause une problématique, justement, qu'il y ait des stocks élevés en entrepôt?
Oui, il y a des stocks très, très élevés. Je pense que c'est par rapport aux moyennes, c'est beaucoup plus élevé, mais pas toutes les parties, là, certaines parties. Je pense que là, ce qui a été évoqué pendant l'Assemblée, c'est que les producteurs de poulet du Canada là, évaluaient la possibilité d'utiliser un peu plus de stock plutôt que croître.
Continuer la croissance de la production comme ça.
Mais bon, ça reste à voir là, comment ça va se développer.
Merci beaucoup, Patricia.
Ça m'a fait plaisir.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour tout complément d'information, vous pouvez consulter La Terre de chez nous en format papier, électronique ou encore sur notre site web au www.laterre.ca. Dans l'édition de cette semaine, il est également question du prix du bois, de mortalité dans les ruches et de la flambée des prix des œufs d'incubation américains. Au centre de votre terre cette semaine, vous retrouverez également le plus récent numéro de L'Utilitaire, notre magazine technique. Vous y retrouverez un dossier sur les stratégies adoptées pour réussir à déjouer les aléas de Dame Nature. Vous y retrouverez également un cahier spécial phytoprotection, où on parle notamment de nouvelles méthodes de lutte aux insectes ravageurs dans les canneberges et des avancées dans la lutte contre la pourriture du soya. Je vous invite également à écouter notre autre balado, Le son de la terre. Dans le plus récent épisode, je vous propose une longue rencontre avec le biologiste et passionné d'acériculture, Stéphane Guy. Une rencontre à ne pas manquer. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous au www.laterre.ca/balado. Bien sûr, pour tout commentaire, n'hésitez pas à nous écrire au balado@laterre.ca. Merci de vous être joint à moi pour cette édition d'À la une cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.